comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons en Côte d'Ivoire, à Bingerville. C'est dans cette commune située à l'est d'Abidjan qu'a ouvert, en mars 2018, un hôpital privé dédié à l'accueil mère-enfant. La Côte d'Ivoire affiche encore un taux élevé de mortalité maternelle, 614 pour 100 000 naissances vivantes, et le taux de mortalité infantile est de 60 pour 1000 naissances vivantes. Alors, quel est l'état de l'accès aux soins dans le pays pour les mères et les enfants à naître? À quelles difficultés sont confrontées de nombreuses femmes pour faire suivre leur grossesse et soigner leurs enfants? Priorité Santé a été invitée à visiter cet hôpital privé mère-enfant, ouvert par la fondation de l'épouse du président ivoirien, Dominique Ouattara, l'occasion de dresser un état des lieux de la santé mère-enfant dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Charlie Dupio dans cet hôpital de Bingerville et au sein du CHU de Cocody. Et nous partons tout de suite en salle d'accouchement. Le travail est terminé, c'est le moment de l'expulsion.
Je vais être à l'aise parce que vous avez la péridurale. J'ai aucun souci à me faire parce que je sais que vous n'aurez pas mal du tout. Je vais vous donner des notes pour l'accouchement. Donc en fonction des notes que je vous donne, vous allez voir l'intensité de l'effort à fournir. Allez, allez-y, poussez. C'est timide. Encore. Deux sur dix. C'est pas bon. Voilà, respirez. En fait, je sais que vous respirez déjà, mais il faut apporter plus d'oxygène au bébé, d'accord? Allez, encore, plus fort. Fâchez-vous. Allez, encore. Eh bien, 3 sur 10. Je peux avoir les compresses, s'il vous plaît. Allez, vous avez mal, hein? Encore. Allez, fâchez-vous. Encore. Allez, c'est bien. Encore. Allez, encore. En fait, pas dans la gorge, dans les fesses. Allez, encore. Parfait. 4 sur 10, c'est bien. Allez, encore. Fâchez-vous. Encore. On n'arrête pas. Encore. Bravo. C'est parfait, c'est bon. Félicitations. Voilà, parfait. Félicitations.
D'accord. Un bon bébé.
Je vous ai donné un bébé par ça, hein. Vous allez faire un bisou, hein. C'est pas interdit, hein.
D'accord. Ok. J'attendais de voir.
Vous êtes le papa?
Oui, le papa.
C'est le premier?
Le troisième garçon. Le troisième enfant, le troisième garçon.
Ça va, madame?
Ça va.
Soulagée?
Oui. Ça a été très rapide et c'est pas plus mal.
Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour.
Alors vous avez assisté à cet accouchement par voix basse, un micro en main, Après l'accouchement, les sages-femmes prennent les mensurations du nouveau-né.
Oui, ce bébé-là fait 49 cm pour 3,2 kg. Un bébé aux mensurations normales, dans la moyenne. Respiration parfaite, aucune réanimation nécessaire. Mais tout ne se passe pas toujours aussi bien. La même matinée, un autre accouchement a eu lieu. J'ai pu y assister également. Preuve, s'il en fallait encore, qu'on n'est pas tous égaux. C'est le professeur Silvia da Silva Anoma, professeur titulaire de chirurgie pédiatrique et directrice médicale et scientifique de l'hôpital, qui m'accompagne pour cet accouchement un peu précipité de jumeaux avec le même chirurgien, le docteur Noumoutier Kourouma. La maman s'appelle Sita, elle a 20 ans, elle est arrivée le matin même. Quand on l'a examinée, elle était déjà à 8 cm de dilatation pour son col de l'utérus, le maximum étant de 10 cm. Alors dans l'urgence, elle accouche sans péridurale.
Elle est arrivée ce matin, c'est ça ?
Oui, elle est arrivée ce matin.
C'est une patiente connue de...
Et c'est une
suivie à l'HME.
Pas suivie à l'HME, c'est une patiente suivie en externe, en dehors de notre structure. C'est une indigente, donc du coup, elle a bénéficié de la réduction, de la prise en charge de l'HME. Précédemment, c'était une indication de césarienne, mais les conditions par voie basse sont favorables. Donc, on va lui donner une chance d'accoucher par voie basse. Dans tous les cas, ça marche pas, on va au bloc. Elle a dilatation complète, c'est-à-dire il y a plus de col. On est en train de faire pousser le premier bébé. Voilà.
J'ai vu le dossier il y a quelques jours. La demande a été faite il y a quelques jours. Et donc, le papa a disparu. Donc, la dame est sourde muette. Et le papa a disparu. Et sans aucune nouvelle. Donc, on ne sait pas s'il lui arrivait un malheur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ou bien si c'est parce qu'il n'a pas d'argent pour assumer les frais qu'à l'approche de l'accouchement, de la naissance, il a disparu. Donc, on n'a pas de nouvelles du père. Et donc, c'est comme ça qu'elle est venue faire une demande pour qu'on prenne en charge son accouchement.
Encore, plus fort. Malheureusement, je ne peux pas communiquer trop avec elle. Elle ne comprend pas tout ce que j'ai dit. Vous avez mal ? Allez, on y va.
Encore. Lâche la tête.
Plus fort. Tu peux accélérer la perfusion de cytocine. Accélère la perfusion. Il y a des bébés comme ça qui se font attendre.
Avec un gant, vous mettez la main dans le vagin.
Ouais. Je stimule un peu. Ça lui donne le courage de pousser. Et en même temps, ça me permet de surveiller la descente de la présentation. Bon, cette fois, ça sort. Hein ? Ça sort, on en a deux comme ça. D'accord ? Ça sort. Fixez la table, là. Fixez la table. Fâchez-vous.
On voit, là, qui commence à sortir.
Allez-y. Encore. Allez. C'est parfait. Allez-y encore. Plus fort. Fâchez-vous. Encore. Écartez les jambes. Ouh. Allez-y. C'est parfait. Bravo, madame.
C'est bien un siège.
Mais les bébés sont pas gros.
Et voilà, le premier bébé est sorti effectivement par les fesses. Donc, il s'agissait bien d'un siège.
C'est incroyable.
Donc il est pris en charge tout de suite par la sage-femme.
Il est essuyé.
Le cordon va être ligaturé, ce qui va permettre de le mettre sur la table de réanimation. Et la pédiatre va commencer les premiers soins. C'est une fille.
Elle ligote.
On attend impatiemment le premier cri. Le cri qui nous montre que ça y est, il y a une première inspiration efficace.
Hop là, allez, on y va. Allez, on se bouge.
C'est l'aspiration pour libérer la trachée, la bouche, être sûr qu'il n'y a rien, voilà, qu'il n'y a pas d'inhalation de liquide amniotique.
Elle a les jambes écartées, les mains écartées, les coudes levés.
Elle a un bon tonus, elle est en bonne. Voilà.
Le nouveau-né.
La position parfaite ?
Quadrifléchi. Les membres supérieurs fléchis, les membres inférieurs fléchis. On parle de la quadriflexion, c'est la position parfaite d'un nouveau-né. C'est comme ça, c'est qu'il ne souffre pas trop. Maintenant, ma petite cocotte, elle n'a pas pleuré. Tu veux pas pleurer ? On te frappe un peu ? Allez, ta 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 ta.
Je frappe les pieds.
Voilà. Je sais pleurer. Voilà, donc c'est bon. On l'oxygène juste quelques minutes et puis on va l'habiller.
Et le deuxième bébé vient de naître.
On pose le deuxième bébé en le prenant par les jambes.
On a fini l'accouchement des jumeaux. Monsieur et madame.
C'est toujours une émotion de... On se lasse pas de toujours faire des accouchements.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, nous sommes toujours à Bingerville en Côte d'Ivoire. Alors, des jumeaux prématurés sont donc nés, une semaine avant le terme. Le premier bébé, c'est une fille, elle va bien, mais très vite. Ce n'est pas le cas pour le second bébé, là, c'est un garçon.
Oui, on le retrouve avec la sage-femme et la pédiatre en charge, docteur Ginette Kanga, dans la salle d'à côté. Il semble se trouver en détresse respiratoire. Là, qu'est-ce que vous faites ?
Faire le pansement ombilical, couper le cordon et faire le pansement.
Voilà. Tu as fait son K1 ? Il faut faire déjà son K1.
Donc là, vous lui faites une injection, en fait, de vitamine.
Vitamine K1. C'est pour éviter la maladie hémorragique du nouveau-né. Parce qu'il y a des cas où le bébé saigne ou une carence en vitamine K1. Voilà, donc ça peut prévenir cette carence-là que systématiquement c'est fait de façon préventive. Vous entendez les gémissements, hein ? Ça veut dire qu'il a un peu de mal à respirer.
Il a un peu de mal à respirer ? Parce qu'il gémit comme ça ?
Donc du coup, il aura besoin d'oxygène un peu plus longtemps que sa sœur. Donc ça, il fait des efforts, ça dit, il sollicite tous les muscles respiratoires. Ça, c'est pas normal, parce que normalement, la respiration, elle est naturelle, on n'a pas besoin de faire des efforts. Là, on voit qu'il fait des efforts pour respirer.
En fait, on voit que ses côtes se contractent et s'ouvrent.
C'est des signes de la détresse respiratoire. Donc, pour voir si un bébé est en détresse, on l'écoute d'abord. Est-ce qu'on l'entend geindre ou pas ? On l'ausculte, parce que des fois, on n'entend pas geindre, mais quand on l'ausculte, on se rend compte qu'il geint en réalité. Voilà, on regarde les espaces intercostaux, c'est-à-dire l'espace entre les côtes. Est-ce que ça rentre lorsqu'il respire ? Voilà, donc pour l'instant, on l'oxygène et on observe.
C'est souvent le cas dans le cas de jumeaux, des détresses respiratoires ?
Oui, le deuxième jumeau. Surtout que lui, il est en transversal, donc il a fallu faire une manœuvre, le remettre en bonne position avant de le faire sortir. Donc tout ça, ça fait que ça prend du temps pour sortir et il y a une période où l'enfant manque d'oxygène parce que le moment ne l'approvisionne plus. Et il n'est pas encore sorti pour pouvoir respirer. Donc, du coup, il y a une petite période d'anoxie. En général, qui est transitoire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on observe une heure. C'est-à-dire, si au bout d'une heure, il n'a pas récupéré, il sera transféré en néonatologie. Il ne reste plus qu'à attendre. On peut voir comment ça évolue.
Bonjour, madame.
Bonjour, ma tante.
Vous êtes venue, du coup, avec Sita, qui vient d'accoucher.
Sita Kamara. Je suis sa sœur. Bon, on était au Grand Marché. C'est à Bobo.
À Bobo.
C'est un hôpital à Bobo, public.
Au Grand Marché, on nous a dit césarienne. 300 000 francs.
300 000 francs CFA, c'est 500 euros.
Oui, c'est ça. Moi-même, je pleurais. Elle-même, elle pleurait. Parce qu'on n'a pas de moyens. Même pour manger, même, c'est un problème. Il y a une sœur qui travaille à la pharmacie de Decu. Donc, c'est elle qui nous a dit, on peut venir demander de l'aide ici.
Elle connaissait en fait l'existence de cet hôpital privé et vous a orienté vers cet hôpital.
Oui, elle connaissait. On nous a pris en charge aussi. Donc, c'est 8 000 francs j'ai payé, puis sur le carnet de deuxième enfant, 1 500, puis c'est fini.
Pour votre sœur ?
Oui.
Ça fait 15 euros en tout ?
Oui, ça fait 15 euros.
Et comment vous avez réuni cet argent-là alors ?
S'il y a des soucis, on demande à les voisines, n'ont qu'à nous aider, à la mosquée, n'ont qu'à nous aider. Même pour venir ici, là, au matin, là même, on nous a aidés. D'autres ont donné 1 000 francs, d'autres ont donné 2 000, d'autres ont donné 500. On est venu en taxi. On a payé 3 000 pour venir à l'hôpital ici. On habite au Kennedy. Kennedy, c'est à Bobo.
Dans le nord de la ville. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Bon, moi, je suis commerçante.
Et votre sœur, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Bon, elle aussi, elle est commerçante. Son mari a disparu, on ne le voit pas. C'est sa quatrième grossesse.
Oui.
Bon, son premier enfant, elle a eu ça à 15 ans. Bon, deuxième, elle a eu ça à 17 ans. Maintenant, c'est troisième, lui, il n'est pas resté. Donc c'est quatrième là qu'elle a.
Et votre sœur, est-ce qu'elle a suivi des consultations avant l'accouchement, des consultations prénatales?
Comme on n'a pas les moyens, c'est les gens qui nous aidaient. Des jours, ils gagnent l'argent pour nous donner, on s'en fait consultation. Des jours, ils ne gagnent pas, on ne fait pas.
Parce que ça coûte combien?
Bon, dans la clinique, 2000.
3 euros. Donc elle en a fait combien?
Deux fois seulement. Normalement, c'est 4, mais elle l'a fait deux fois. Elle a fait première consultation à 7 mois. Maintenant, 8 mois, elle a fait deuxième consultation. Puis c'est fini. On n'a pas consulté avant 7 mois.
Docteur Kourouma, on a assisté là en fait à deux accouchements complètement différents, avec deux profils de mamans différents. Oui. Une maman de milieu assez défavorisé, oui, et au contraire une maman plutôt, oui, plutôt aisée. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit dans leur physique, mais aussi dans leur bébé, la différence en fait.
C'était exactement deux situations tout à fait différentes. Vous avez vu que l'accouchement prématuré, gémellaire, c'est une dame qui n'a pas été suivie chez nous. Elle est venue quand même un peu tard, elle a passé une partie de son travail chez elle. Donc on n'a vraiment pas eu le temps de poser le cathéter de péridurale parce qu'elle était déjà presque très avancée dans le travail, sans aucun bilan prénatal. Certainement, elle était sous-alimentée peut-être. Et l'autre a accouché, bah, elle a eu plus de chances que l'autre, elle était meilleure, ses conditions de suivi. Tout le parcours qu'il fallait, même avec le dépistage de la trisomie 21, elle a fait ses trois échographies. Du coup, il n'y avait pas de surprise. Voilà. Elle a eu également sa consultation péridurale qu'elle a eue à 32-33 semaines. C'est dit que tout l'intérêt qu'il y a à faire suivre une grossesse.
Alors justement, quelles complications est-ce qu'on peut éviter si on arrive à faire suivre sa grossesse?
D'abord, au début de la grossesse, il faut faire un bilan prénatal. Le groupe sanguin, par exemple, c'est un élément très important pour le bilan prénatal. Le bilan, c'est de faire le dépistage de toutes ces affections pour voir si la mère a une toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie très grave quand la mère la contracte pendant la grossesse. Il y a la rubéole également. Et s'il y a le VIH également, il y a un suivi à faire, des traitements qu'il faut donner au cas où la mère est séropositive. Et il y a les surveillances échographiques de la femme pour voir s'il y a, par exemple, un retard de croissance de la grossesse. Il y a également son antécédent obstétrical, si c'est une mère qui avait déjà fait des fausses couches ou pas, dans quelles conditions ces fausses couches ont lieu, si c'est une mère qui avait saigné dans les accouchements antérieurs pour pouvoir prendre les dispositions dans l'accouchement actuel, pour pouvoir faire face à une éventuelle hémorragie. Il faut également regarder le problème de bassin. Voilà, si il n'y a pas un problème de bassin.
Si le bassin est assez large.
Assez large ou pas, tout ça. Donc, en faisant un check, on réduit fortement l'impact de toutes ces complications en termes au moment de l'accouchement. Et tout ça, c'est des facteurs qui concourent à faire baisser la mortalité maternelle et néonatale.
Docteur Noumoutier Kourouma, que l'on vient d'entendre, il est gynécologue obstétricien à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, un établissement présenté comme privé à but non lucratif. Et c'est un hôpital tout récent, hein, Charlie.
Oui, flambant neuf, financé sur fonds privés grâce à de nombreux partenaires. Il a été inauguré en mars dernier. Il est situé en face de l'hôpital psychiatrique de Bingerville et à deux pas de l'hôpital général. Alors cet hôpital privé emploie 400 personnes, dont 300 pour la santé, des médecins reconnus, dont 11 professeurs de médecine, formés pour certains à l'étranger, des sages-femmes, des aides-soignants, des infirmiers. L'hôpital se veut en fait de référence pour la sous-région. Il est en partenariat notamment avec l'ONG La Chaîne de l'Espoir pour des opérations de chirurgie pédiatrique. Alors pour évoquer ce projet, j'ai rencontré Frédéric Dussard, le directeur général de cet hôpital mère-enfant de Bingerville, et Nadine Sangaré, directrice de la fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire. C'est la fondation qui est à l'origine de cet hôpital.
L'hôpital nous a coûté 25 milliards, soit à peu près 38 millions d'euros. Donc 18 milliards pour la construction et 7 milliards pour l'équipement. Donc c'est un hôpital avec un plateau technique assez pointu,
Pour compléter ce que dit Mme Sangaré, c'est très important ce matériel puisque nous avons aujourd'hui un scanner multibarrette, un 16 barrettes, qui permet de prendre en charge toutes les pathologies de la femme et de l'enfant. Et aussi un IRM 1.5, pour les puristes, on va dire 1.5 Tesla, qui permet de pouvoir aussi avoir des images extrêmement précises dans toutes les pathologies que l'on rencontre ici. Mais aussi, on a 11 couveuses. Pour exemple, on a eu des enfants, des nourrissons nés à 850 grammes.
Des prématurés.
Et qui aujourd'hui se portent très bien. Donc c'est grâce... donc pas qu'au matériel, puisqu'on a tout un personnel qui est extrêmement bien formé, qui prend en charge de toutes ces pathologies et ces nourrissons.
Donc pour les patients qui ont la chance de venir ici.
Alors, l'hôpital mère-enfant, c'est un hôpital privé à but non lucratif, qui permet aujourd'hui de pouvoir maîtriser ses coûts et derrière pouvoir prendre 25% de personnes qui sont dites indigentes, c'est-à-dire qui sont en difficulté sociale.
Nous ne faisons pas de profit. Cet hôpital est géré par une association de gestion.
L'association de gestion qui est née de la Fondation.
Qui est née de la Fondation. Et donc, une partie des directives données à l'hôpital, c'est de pouvoir soigner 25% d'indigents. Pour les 25% d'indigents, l'État nous verse une subvention.
Et pour eux, ils doivent passer par une assistante sociale, en fait, qui fait une enquête sociale, parfois à domicile, pour vérifier leur revenu.
Il y a un système qui est mis en place au niveau de l'hôpital avec un service social, avec des assistants sociaux et la direction des soins infirmiers médicaux qui font effectivement une enquête. Mais tous les patients qui rentrent ici reçoivent déjà des soins, des premiers soins, avant de voir si ils sont vraiment indigents ou s'ils ont les moyens de pouvoir payer leurs soins.
Qu'est-ce que vous répondez à une des critiques qui est faite aussi envers cet hôpital mère-enfant ? Qui est que cet hôpital est élitiste ?
C'est une vision que nous ne partageons pas. Nous sommes une structure privée, certes, mais à but non lucratif. Et nous soignons 25% d'indigents, comme nous l'avons dit, et que nous sommes également ouverts à tous les systèmes d'assurance.
Effectivement, aujourd'hui, le juste prix qui est demandé est un prix qui correspond à la prise en charge aujourd'hui de cet hôpital. C'est un hôpital qui est de niveau occidental. Si l'élitisme, c'est l'excellence dans la prise en charge des patients et des mamans, oui, effectivement, on est élitiste alors.
Priorité santé sur RFI.
Et Charlie, vous avez voulu voir une structure hospitalière publique. Vous vous êtes rendu au CHU de Cocody. Oui, un centre hospitalier universitaire ouvert en 1970. Les derniers travaux de réhabilitation datent de 1997. Alors 70% du budget annuel de ce CHU est consacré au salaire des 1500 employés, ce qui est énorme. Seulement 4 blocs opératoires sur 16 sont opérationnels. Les autres sont en réfection. J'ai visité le service de gynécologie obstétrique débordé. J'ai été guidée par Salomon Desa, médecin au service de gynécologie, seul médecin qui assure la permanence en salle ce jour-là.
Alors ici nous sommes nous sommes déjà dans la salle d'accouchement. En face ici vous avez le pré-travail, ce qu'on appelle le pré-travail, les femmes qui n'ont pas encore accouché, ou même celles qui ont déjà accouché. On le met également en sud-couche, on le met ici.
On peut rentrer ?
On peut rentrer, oui, si vous voulez. Alors donc, comme je le disais ici, c'est ce qu'on appelait la salle de mise en observation.
Là, on a 7 femmes qui sont allongées.
Oui, 7 femmes, 6 qui ont déjà accouché et une qui n'a pas encore accouché, notamment celle qui est là. Ce que vous voyez déjà, vous voyez que les lits, par exemple, il n'y a pas de drap dessus. Et puis c'est une salle, comme vous sentez la chaleur. C'est une salle où la climatisation ne marche pas très bien. Je veux dire, une femme qui a accouché, il faut la surveiller. Il y a des éléments de surveillance, il y a des scopes qu'il faut avoir, il y a de l'oxygène qu'il faut avoir, on n'a pas tout ça. Donc ça, ce n'est que des échantillons de difficultés, mais il y en a plusieurs. Vous savez que Yopougon, où il y a un CHU, il est en restructuration. Le service de gynécologie de Trècheville, il est en restructuration, même fermé. Et donc, nous recevons les femmes à la fois d'Abidjan Sud, donc qui viennent de Trècheville et autres, les femmes de Yopougon, et même des autres maternités. Hors d'Abidjan.
Vous avez combien d'accouchements par jour ici ?
Environ 20-25. en prenant en compte et les voies basses et les césariennes. Nous sommes autour de 10 césariennes, on va jusqu'à même à 15 césariennes par jour.
Donc là, c'est la seule salle ici pour accueillir les femmes,
c'est ça.
Et ça arrive qu'il n'y ait pas assez de lits ?
Ah oui, c'est pourquoi on dit aujourd'hui que bon, vous êtes venus, hein, bonjour, sinon on est obligé de trouver des formules. Il y a des fois où des femmes se retrouvent sur la terre, sur des matelas. Pour parler ça fait partie des difficultés. Vous savez que quand une femme accouche, dans la surveillance que nous créons, nous obstétriciens, sont les hémorragies. Et vous le savez, au niveau international, c'est la première cause de décès maternel, les hémorragies du postpartum. L'idéal, c'est que quand une femme accouche, c'est de pouvoir la garder en observation pendant 48 heures. Et être sûr que la phase des complications du postpartum immédiat sont passées avant qu'elle ne sorte. Mais comme on a beaucoup de femmes, on est obligé d'abréger le temps. Si tu as accouché 6 heures de temps, 4 heures de temps après, on est obligé de te libérer pour qu'il ait la place pour d'autres qui arrivent.
On va un peu plus loin ?
Oui, effectivement. Alors, je le disais tout à l'heure, vous voyez, ici, ça parle déjà. C'est des femmes qui sont arrivées, qu'on n'a pas encore pu examiner, qu'on n'a encore pu voir, parce qu'on n'a pas de table pour les examiner. Ce qui est idéal, c'est que quand une femme arrive, il faut que dans les 5 minutes de son arrivée, elle soit vue par un médecin. Mais c'est déjà une difficulté. Vous voyez, 4 femmes qu'on n'a pas encore pu examiner parce qu'on n'a pas de place.
On peut peut-être leur demander depuis combien de temps elles attendent. Bonjour madame.
Bonjour.
Ça fait combien de temps que vous êtes là, que vous attendez ?
Une heure du temps.
Et vous madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivée il y a combien de temps ?
Je suis là depuis 10 heures.
10 heures et là il est midi ? Donc ça fait 2 heures déjà ? Comment vous vous sentez là ?
J'ai des douleurs au bas-ventre, mais comme on m'a dit d'attendre, donc j'attends.
Vous êtes arrivée à terme ?
Oui, j'ai dépassé.
Depuis combien de temps vous avez dépassé ?
Probablement 2 semaines. C'est difficile, mais on n'y peut rien. On est obligé d'attendre, sinon c'est difficile. Il n'y a pas d'autre solution.
Bon courage.
Merci. Merci.
La docteure, la dame, du coup, attend depuis 2 heures, a déjà des douleurs au ventre. Quel risque aussi ça présente d'attendre aussi longtemps ?
Voilà, elle a un dépassement de terme, certainement, on l'a pas encore vu, mais si elle a un dépassement de la plus de 42 semaines, c'est une femme chez qui nous allons poser d'emblée une indication de césarienne. Mais il n'y a qu'un bloc opératoire qui est fonctionnel pour le service de gynécologie. Un seul bloc. On a les dames qui sont là pour la plupart, c'est des électives qu'on doit opérer, 6 électives à faire.
Électives, ça veut dire ?
C'est-à-dire que c'est des femmes qui ne sont pas en travail, chez qui on a posé une indication de césarienne, des stations fœtales. Soit l'enfant en siège, soit en transversal, soit il est. Il y a une présentation dystocie qui fait que bon, il faut l'opérer forcément. Mais c'est des femmes qu'on doit opérer, mais on a un seul bloc. On est obligé d'attendre.
Et vous avez combien d'anesthésistes alors pour le service ?
Alors, le service n'a pas d'anesthésiste. C'est une unité à part, on la recourt à eux quand on pose une indication. Donc là aussi, il faut qu'ils se libèrent avant qu'on ne puisse aller opérer. Mais le temps que le bloc se libère, c'est un problème. Le temps que l'anesthésie même arrive, c'est un problème. Le temps d'acquérir tous les médicaments, le kit complet, c'est un problème. Je voulais d'abord revenir au niveau des patientes pour parler de ce qui manque. On doit pouvoir voir normalement, pour suivre les paramètres du travail, surtout les contractions et les bruits du cœur fœtal, un cardiotochographe.
Pour chaque femme ?
Pour chaque femme. Donc du coup, la conséquence, c'est qu'on ne peut pas correctement surveiller les contractions utérines et la vitalité fœtale au fur et à mesure que le travail avance. Il faut pouvoir évaluer le rythme cardiaque de l'enfant. Toujours au niveau du matériel, en obstétrique, lorsque la tête s'engage, que la femme est prête à accoucher, la tête s'engage, que l'enfant ne sort pas rapidement, dans les 15 minutes, vous pouvez le perdre. Donc il faut être actif pour le faire sortir, et là on a besoin des instruments qui permettent de faire des extractions instrumentales, la ventouse et le forceps. On sait les utiliser, mais on ne les a pas.
Il n'y en a pas assez ou il n'y en a pas ?
Il n'y en a pas du tout.
Ça fait combien de temps qu'il n'y en a plus ?
4 à 5 mois qu'il n'y en a pas. Or, selon nos statistiques en cours, on peut observer peut-être 2 décès maternels. Des fois, on a 2 décès maternels. Hein. On peut avoir 2 décès maternels dans le mois.
Dans le mois ?
Oui. C'est dramatique, mais bon. C'est la triste réalité.
Alors Charlie, on poursuit cette visite du CHU de Cocody en proie à de nombreuses difficultés. On vient de l'entendre, mais un pôle mère-enfant pourrait donc y être créé.
Oui, un pôle qui devrait mêler services de gynéco-obstétrique et de pédiatrie dans un bâtiment à côté du bâtiment principal grâce à des fonds de la coopération japonaise. Les travaux devraient commencer en 2019 pour être terminés en théorie en 2021. Dans le service actuellement, on déplore une vingtaine de morts-nés chaque mois. La gratuité ciblée mère-enfant existe en théorie en Côte d'Ivoire, mais souvent, dans la réalité, il faut payer les médicaments ou des frais supplémentaires pour les consultations. Je vous propose d'écouter le professeur Serge Bonny, chef de service de gynéco-obstétrique au CHU de Cocody. Il préside également le réseau de la prévention de la mortalité maternelle, section Côte d'Ivoire.
C'est un indicateur important et il faut dire qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ces indicateurs ne sont pas bons. En matière de mortalité maternelle, on reste toujours sur le chiffre de l'EDS 2012.
Enquête démographique et sociale.
Sociale, voilà, c'est ça. Et on en est à 614 pour 100 000 naissances vivantes. En ce qui concerne la mortalité infantile, les derniers chiffres, je crois, nous situent autour de 60 pour 1 000 naissances vivantes. Par exemple, en France, la mortalité maternelle est en dessous de 10 pour 100 000 naissances vivantes. Et la mortalité infantile autour de 2 pour 1000 naissances vivantes. Donc vous voyez qu'il y a encore un effort important à faire. Globalement, la femme meurt, soit parce que c'est ce qu'on appelle les trop-trop, soit qu'elle tombe enceinte trop jeune, soit qu'elle a des grossesses trop rapprochées, soit qu'elle a des grossesses trop tard, trop âgée, soit qu'elle a des grossesses trop nombreuses. C'est les 4 trop. Alors, il y a les facteurs économiques, il y a l'état des routes, il y a la proximité des structures de santé. Alors, pour lutter contre cela, j'anticipe un peu, il y a 3 grands chapitres pour la lutte contre la mortalité maternelle. Le chapitre de la prévention, faire en sorte que les femmes aient la maîtrise de leur fécondité, c'est la contraception. Et là encore, vous voyez le taux de prévalence contraceptive en Côte d'Ivoire, qui était longtemps à 14%, avec les efforts qui ont été menés ces dernières années, est autour de 22 à 23%.
Ça reste peu.
Le deuxième volet, qui est un volet aussi présenté, c'est la surveillance prénatale. Depuis 2016, les nouvelles recommandations de l'OMS parlent maintenant de 8 contacts entre le personnel de santé et la gestante qui font en sorte que, au dernier trimestre surtout, la femme est quasiment vue tous les mois, pour détecter les facteurs de risque, les prendre en compte, les traiter. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait le maximum de centres de santé pas loin des domiciles des gestantes, dans les villages, dans la ville.
Et avec du personnel et du matériel.
Avec du personnel et du matériel, mais c'est possible. Et là, le troisième volet, ça passe par quoi? Par la création de centres obstétrico-chirurgicaux équipés en amont des CHU, notamment en amont du CHU de Cocody, comme à Bobo, à Djamé, des endroits où on peut prendre en charge de façon correcte toutes les urgences obstétricales qui se présentent.
Alors ça, c'est pour réduire la mortalité maternelle. Et pour la mortalité infantile?
Oui, alors il y a la réanimation néonatale. Mais vous savez, quand la grossesse est correctement prise en charge, qu'on arrive à un accouchement correctement géré, la plupart du temps, le bébé a beaucoup de chances de s'en sortir.
Alors, il y a plusieurs obstacles aussi pour les femmes, pour le suivi de grossesse et pour ensuite, une fois que leur enfant est né, si jamais il est malade, aller consulter. C'est la question de la gratuité ciblée qui n'est pas toujours efficace et pratiquée. Et l'autre obstacle, c'est l'assurance santé. Beaucoup de femmes n'ont pas d'assurance santé.
Ça explique l'impérieuse nécessité pour nos gouvernements d'organiser la couverture médicale universelle. C'est un projet qui est en cours. Nous espérons qu'il va finir par aboutir parce que nous, les praticiens, nous vivons au quotidien le drame de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile. C'est un combat de tous les jours parce que je trouve qu'il est complètement inadmissible qu'une femme perde la vie en donnant la vie.
Seulement 6% du budget du PIB est consacré à la santé, alors que normalement, ça devrait être 15% selon le protocole d'Abuja.
Il faut nécessairement augmenter le budget de la santé. Et comme ça a été déterminé par les différents experts pour dire qu'il doit se situer au minimum à 15%, combien de pays arrivent à cette performance-là?
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Retour avec vous, Charlie Dupuy, à l'hôpital privé mère-enfant de Bingerville. On va retrouver les jumeaux avec qui l'on a fait connaissance au tout début de l'émission.
Oui, pour un dépistage de la surdité qui est réalisé 2 jours après la naissance de chaque nouveau-né. Un test réalisé systématiquement depuis quelques semaines dans cet hôpital. J'accompagne l'équipe de médecins ORL, docteur Fabrice Noum et docteur Dialou Sanogo. Ils se rendent au service de néonatalogie et ils vont réaliser ce test auprès des jumeaux, chacun dans sa couveuse.
C'est celle des néonates ici.
Désinfecter les mains?
Oui, on va désinfecter les mains. Pour diminuer le risque d'infection, c'est des nouveaux-nés, ils sont très sensibles aux infections. Donc...
On va voir celui qui pleure d'abord, le temps.
Celui qui est au calme déjà. Au calme. Voilà. Parce que c'est un test qui doit se faire au calme. Il a déjà tété?
Il a tété à 13h. Et là, je crois qu'on peut commencer.
Vous ouvrez, parce qu'il faut qu'on soit à l'aise pour faire le test. Ils sont en couveuse. En fait, c'est un test qui doit être fait systématiquement. Hein. Voilà, chez les nouveau-nés pour déjà dépister la surdité hein, de façon précoce. Comme vous le savez, c'est vraiment un handicap. Quand l'enfant est dépisté tard, hein, surtout après 5 ans.
Donc là, vous faites ce test 2 jours après leur naissance?
Oui, 2 jours après la naissance ou 3 jours. Parce que à la naissance, il y a le liquide amniotique, il y a des débris au niveau du conduit qui peuvent empêcher le son envoyé par l'appareil d'atteindre la cible, c'est-à-dire les cellules de l'oreille. Voilà, donc on attend 2 jours, le temps que l'oreille évacue tout ce qu'il y a comme sérosité dans le conduit. Voilà. Donc, tu es prêt?
Celui-là, c'est la fille.
D'accord, ok.
Kamara Awasita.
Donc là, vous avez un boîtier dans lequel vous rentrez les informations sur le bébé?
C'est un boîtier mobile qui nous permet de pouvoir faire en fait le test.
Donc le test qu'on va réaliser, c'est ce qu'on appelle les auto-émissions acoustiques provoquées. Voilà, donc on va provoquer, en fait, on va stimuler les cellules externes en envoyant des sons par la sonde qui est là.
Donc la sonde qui est rattachée au boîtier?
Qui est rattachée au boîtier. C'est quelle
gauche,
oreille?
Gauche.
Vous le faites pour chaque oreille, gauche et droite?
Oui, pour chaque oreille. Donc on va introduire dans le conduit de l'enfant, le conduit de l'oreille.
La sonde.
La sonde.
Mm-hmm. Là, vous le soulevez délicatement.
Donc c'est un test qui est indolore, hein. Ça fait pas mal.
Mettez la sonde dans l'oreille.
Oui. Pardon.
Et on laisse en place pour que l'appareil enregistre la réaction des cellules, en fait. Un peu près du tympan.
Et là, la maman est malentendante.
On va chercher des facteurs de risque de surdité. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de surdité dans la famille? Est-ce qu'il n'y a pas de malformation crânio-faciale dans la famille? Est-ce que l'enfant, la grossesse, il y a eu un bon déroulement de la grossesse, il n'y a pas d'infection au cours de la grossesse, telles que les infections à cytomégalovirus, les toxoplasmoses ou la rubéole. Et également, voici l'enfant n'est pas un prématuré.
Parce que si l'enfant est prématuré, il y a plus de risques de surdité?
Ça également, c'est un facteur de risque. Voilà. Un petit poids de naissance, c'est-à-dire moins de 2 mg. Également, c'est un facteur de risque de surdité chez l'enfant. Avant que l'enfant ne naisse, il y a déjà la structuration en fait auditive n'est pas complète. L'enfant poursuit sa structuration auditive jusqu'à l'âge de un an et demi. Donc si l'enfant naît prématuré, c'est sûr que les cellules ne sont pas encore matures.
Et alors là, qu'est-ce que ça donne?
C'est négatif.
Donc ça veut dire qu'il n'a pas de réaction, le bébé.
On va faire l'autre oreille.
De la petite Camara.
Pas de réaction non plus pour l'oreille droite. On va refaire le test dans une semaine. Voir s'il y a toujours cette absence de réaction. Et si c'est le cas, on reverra l'enfant pour faire les potentiels évoqués au DT.
Donc un autre test.
Un autre test, oui.
On peut juste suspecter en fait.
Surdité probable, oui. Parce que comme on a dit, les premiers instants de l'enfant sont très importants dans sa vie. On a vraiment de forts taux de surdité chez ces enfants-là.
Chez ces enfants pour qui les premiers instants ont été difficiles.
Difficiles. Qui ont bénéficié d'une réanimation, par exemple. Oui.
Qui ont pu être en détresse respiratoire.
Détresse respiratoire, détresse cérébrale, souffrance cérébrale, tout ça. Parce que généralement, les parents en attendant vont mettre au monde un enfant en attendant, mais c'est des enfants à surveiller. Très tôt, on ne peut pas savoir si l'enfant est sourd ou pas si on ne fait pas de tests. À l'âge scolaire, à 5-6 ans, on doit mettre l'enfant à l'école, on se rend compte que mon enfant ne réagit pas quand je l'appelle, ou bien il a un retard de langage, tout ça, et on vient faire le test, on se rend compte, on nous dit que l'enfant a une surdité. Déjà, il faut que l'enfant soit précocement dépisté. Voilà. Oui, s'il y a vraiment une surdité qui est confirmée, qu'on le prenne en charge précocement pour qu'il s'intègre dans la société. Parce qu'il faut qu'il ait un langage, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il s'intègre dans la société. Donc, il y a toute cette prise en charge à faire et pour cela, il faut que l'enfant soit dépisté précocement.
L'importance d'un diagnostic de surdité le plus tôt possible. Alors, après ce premier test, les jumeaux ont été détectés comme susceptibles d'être sourds ou malentendants. Une information qu'il va encore falloir revérifier.
Oui, et qui dit surdité, dit prothèses auditives, et elles coûtent cher. Il y a également des opérations dites d'implantologie cochléaire qui peuvent coûter près de 15 millions de francs CFA pour une oreille, l'équivalent de 23 000 euros, sachant qu'en général, les deux oreilles sont touchées et il n'existe qu'une seule école pour sourds à Abidjan.
Et vous avez aussi, Charlie, visité un autre service de cet hôpital mère-enfant, celui de chirurgie pédiatrique.
Où l'on opère beaucoup pour des malformations, notamment du système digestif ou urinaire. Dans une des chambres d'hospitalisation, deux jeunes garçons se reposent ce jour-là. L'un vient d'être opéré pour ce qu'on appelle un hypospadias. C'est une malformation du pénis qui peut poser des problèmes pour sa vie sexuelle et puis notamment pour les capacités de reproduction. Sa mère, Victoire, est assise près de lui, le regard à la fois inquiet et soulagé.
Mon fils a 12 ans. Il aura ses 12 ans dans le mois de décembre prochain. Et c'est Condé Pénuel.
Pénuel?
Oui, Pénuel.
Quand est-ce qu'il a été opéré?
Depuis hier. Hier matin, il était rentré au bloc et puis bon, dans la soirée, il est sorti. L'opération s'est très bien passée parce que bon, après son réveil, il a commencé à bien réagir. J'étais un peu stressée au départ, bon. Mais après l'opération, j'ai vu que se portait bien. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Il est né avec cette malformation. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour nous, ses parents. Bon, c'était mon premier bébé. Bon, après l'accouchement, je saignais beaucoup, donc j'ai été évacuée au CHU de Yopougon. De un, quand tu voyais le sexe, c'était différent. Tu ne savais pas si c'était une fille ou bien si c'était un garçon. Parce que même la sage-femme qui avait rempli le carnet s'était même trompée. Elle avait dit au départ que c'était une femme. C'est après qu'ils ont dit non, que c'est un garçon, seulement que c'était une malformation, que ça pouvait s'opérer. Donc mon espoir, c'était que je trouve les moyens pour le faire opérer.
Ça coûtait combien?
Bon, j'ai fait une première, nous avons essayé une première opération au CHU de Trècheville. Ça nous a coûté un peu plus de 300 000 francs.
Donc l'équivalent de 460 euros.
Nous, on ne savait pas que ça coûtait aussi cher. On était partis au CHU pour aller prendre des renseignements. Il fallait débourser une somme de 50 000 francs. Et nous, on s'était dit que bon, si on trouvait les 50 000 francs, c'était fini. et on s'est lancé. Pourtant, ce n'était pas ça. Après l'opération, il y avait les ordonnances qu'il fallait payer. Et les ordonnances, ça venait tous les jours. Tous les jours.
Vous aviez une assurance santé ? Vous avez une assurance santé ?
Non. Non, je n'ai pas d'assurance santé. Et la famille nous est venue en aide, des amis, des connaissances. Une solidarité, en fait.
Et donc ça, c'était quand ? Cette opération, cette première opération ?
Ça s'est passé quand il avait 6 ans. Ça a échoué, ça n'a pas marché. Tu es là, tu te poses des questions. Comment faire pour opérer, faire opérer mon fils de cette malformation? Et puis, il y a l'air de l'avenir de l'enfant. Tu te poses plein de questions. Est-ce que demain, il pourra se marier? Est-ce qu'il va se sentir à l'aise? Comment faire pour trouver les finances pour pouvoir opérer encore notre fils?
Pendant 6 ans, vous avez essayé de trouver des revenus pour payer une deuxième opération?
Oui, on pensait toujours à ça. C'est dans la quête de cette solution que mon mari a eu l'idée de venir ici.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie avec votre mari?
Je vends dans un marché à Abobo, dans une commune d'Abidjan. Je vends des légumes, de l'oignon, de la tomate, du piment. Et puis, bon, le travail de mon mari n'est pas encore stable. Mais il a une boîte de location, location de chaises, de bâches.
Et avec ça, combien vous arrivez à tirer de revenus par mois?
On peut avoir comme ça 80 000 pour les dépenses de la maison. Si on a 80 000 par mois, on peut avoir 100 000 francs. Ça dépend.
Donc l'équivalent de 150 euros?
Pour toute la famille, oui. Il y a le loyer, les factures, la popote. Les économies, c'est difficile. Parce que nous avons 4 enfants, 2 garçons, 2 filles.
Alors, vous n'avez pas d'assurance santé. Est-ce que, du coup, chaque mois, vous essayez de mettre de côté un peu d'argent au cas où vos enfants tombent malades, par exemple?
Franchement, on ne met pas d'argent de côté. On ne refuse pas de prévoir. On ne refuse pas. Tu es là et les revenus ne suffisent pas. Alors, comment tu fais pour épargner? Comment tu fais pour épargner? Tu sais que ton enfant ne va pas manger aujourd'hui et tu lui dis ne mange pas aujourd'hui, je mets de l'argent demain. Je vais garder de l'argent demain, ce n'est pas possible, ce sont des enfants. C'est très stressant parce que ce sont des prières, tu vas prier tout le jour. Dieu, fais grâce pour qu'aujourd'hui tout se passe bien, que les enfants ne tombent pas malades. Ce n'est pas facile. Mais je vous parle de la réalité que nous vivons.
Cette voix, celle de Victoire, mère de 4 enfants à Abidjan, qui en dit long sur les difficultés auxquelles de nombreuses mères de Côte d'Ivoire continuent de faire face. La santé maternelle et infantile reste dans le pays une priorité, un défi à relever. C'était un reportage à Bingerville et Cocody, signé Charlie Dupio, réalisé par Steven Elsley. On se retrouve lundi.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.